VOA Afrique, les infos à Washington.
Bonjour à tous, Raissa Girondin avec vous pour votre bulletin d'information. Ouverture tout d'abord devant la Cour pénale internationale de la dernière phase du procès de Bosco Ntaganda, l'ancien chef de guerre congolais. Ntaganda doit répondre de 13 crimes de guerre et de 5 crimes contre l'humanité commis en Ituri, dans l'est de la République démocratique du Congo, pour lesquels il a plaidé non coupable en septembre 2015. Il est accusé d'avoir commandité des meurtres, pillages et viols commis par ses troupes en 2002 et 2003. Beaucoup de gens ont été exécutés à la main à coups de machette, a déclaré la procureure de la CPI Fatou Bensouda aux trois juges présents à l'ouverture. Les déclarations finales se dérouleront de mardi à jeudi. Et autre procès en République démocratique du Congo, celui des assassins présumés de deux experts des Nations Unies et de leurs accompagnateurs en mars de l'année dernière. Il a repris hier après 10 mois de suspension. 13 des 26 prévenus ont comparu devant une juridiction militaire à Kananga dans la province du Kasaï central. Parmi eux figuraient 2 nouveaux prévenus, dont le chef du village Moyo Muswila, où les 2 jeunes experts ont été tués. Les 2 hommes sont poursuivis pour crimes de guerre par mutilation. Le chef de village nie toute participation à ce crime. Il met en cause l'autre prévenu qu'il a présenté comme le chef milicien qui a installé le mouvement Kamwina Nsapu dans son village en 2017, selon la radio onusienne Okapi. L'audience a été renvoyée à jeudi. Et République démocratique du Congo toujours, le Conseil de sécurité de l'ONU est préoccupé par l'organisation des élections de décembre prochain dans ce pays. Abdourahmane Dia.
L'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, s'est posé beaucoup de questions sans réponse sur l'utilisation des machines à voter. Anne Gengen, numéro 2 de la délégation française à l'ONU, a estimé que le respect du calendrier électoral est indispensable, assurant que l'ONU pouvait apporter une aide logistique. Kinshasa rejette toute assistance étrangère dans l'organisation du scrutin. Pour Leila Zerougui, émissaire de l'ONU en RDC, la crédibilité du processus électoral demeure une préoccupation majeure, mais Ignace Gata Mavita, ambassadeur de la RDC à l'ONU, a pris la défense de la CENI, disant que les résultats obtenus jusqu'ici doivent inciter à faire confiance à cette institution. La ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Lindiwe Sisulu, affiche elle aussi sa confiance au processus électoral congolais. Ce week-end, la commission électorale a annoncé avoir retenu 19 candidats sur les 25 qui avaient déposé un dossier. Parmi les recalés, Jean-Pierre Bemba et 3 anciens premiers ministres ont saisi la Cour constitutionnelle.
Et pour clore ce dossier en République démocratique du Congo, le bilan de l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola dans l'est du pays est monté à 75 morts d'après le ministère de la Santé. Des représentants de la société civile ont demandé le report de la rentrée scolaire prévue le 3 septembre dans le territoire de Beni à titre préventif. Au Burkina Faso, près d'une dizaine de gendarmes et des militaires morts mardi à Pama dans la province de la Compiègne, dans l'est du pays, dans l'explosion d'une mine. Des sources sécuritaires parlent de 8 morts. Nous y reviendrons dans nos prochains bulletins. Burkina Faso, toujours, un référendum constitutionnel se tiendra le 24 mars 2019 en vue d'instaurer un régime semi-présidentiel. Bagassi Koura.
C'est le président de la commission électorale, Newton Ahmed Barry, qui a fait cette annonce. Joint par VOA Afrique, il explique que la date a été arrêtée il y a 2 semaines en accord avec le gouvernement qui doit bientôt prendre un décret dans ce sens. En cas d'adoption, la nouvelle constitution promise par le président Roch Kabore devra mettre fin à la 4e République instaurée par le président Blaise Compaoré, arrivé au pouvoir par un putsch. Le projet de nouvelle constitution doit donner naissance à un régime semi-présidentiel avec une limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels. Le projet prévoit aussi une procédure de destitution du président par la Cour constitutionnelle. En vue de préparer ce référendum en 2019 et les élections présidentielles et législatives de 2020, une opération de révision du fichier électoral devra débuter dans les prochaines semaines pour l'enrôlement des Burkinabés en âge de voter en 2019 et ceux de l'extérieur qui voteront pour la première fois, a précisé la CENI.
Au Soudan du Sud, le chef des rebelles Riek Machar refuse de signer l'accord de paix définitif avec le gouvernement, mettant fin à un conflit qui dure depuis plusieurs années. C'est ce qu'a annoncé ce mardi le ministre des Affaires étrangères soudanais, Al-Dirdiri Mohamed, lors d'une conférence de presse à Khartoum. Les autorités soudanaises ont joué les médiateurs dans les dernières négociations entre le président Salva Kiir et les rebelles de l'ex-vice-président Riek Machar, qui ont abouti à la signature d'un cessez-le-feu le 5 août dernier. De précédents accords de paix ont été négociés, mais n'ont tenu que quelques mois avant une reprise des combats. Au Mali, l'un des principaux responsables du groupe État islamique au Grand Sahara, Mohamed Agh Amouner, et deux civils ont été tués dans une opération de l'armée française dans la région de Ménaka, dans le nord. La frappe a eu lieu dimanche. Ce groupe est actif dans la zone des trois frontières, c'est-à-dire Mali, Burkina Faso et Niger. Il est dirigé par Adan Abdouwalid Sahraoui, un transfuge d'ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Deux autres civils ont été blessés. Une investigation est en cours pour déterminer comment des civils ont été atteints lors de la frappe, selon l'état-major français. Au Sénégal, début d'une campagne de collecte de parrainage destinée à limiter le nombre de candidatures dans un pays qui compte plus de 300 partis politiques. Mais déjà plus de 80 candidats ont manifesté leur intention de se présenter à la présidentielle de février prochain. Jean-Roger Bion.
Les représentants de 85 candidats à la candidature se sont présentés lundi pour récupérer les fiches de collecte des signatures au ministère de l'Intérieur. Cette campagne doit durer jusqu'à la période prévue pour le dépôt des candidatures entre le 11 et le 26 décembre. L'ancienne première ministre Aminata Touré, déléguée de la majorité, a estimé que c'était beaucoup trop. Ces candidatures devront cependant passer au tamis de la loi sur le parrainage. Cette loi, votée en avril, impose dorénavant à tous les candidats de recueillir environ 52 000 signatures réparties dans au moins 7 des 14 régions du pays. Le nouveau texte vise à filtrer les candidats après une pléthore de prétendants comme lors des législatives de juillet 2017 où les électeurs devaient choisir entre 47 listes avec tous les problèmes d'organisation. L'opposition affirme que la nouvelle loi est à issue mesure pour éliminer les potentiels concurrents au président Macky Sall.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Washington a réfuté ce mardi la compétence de la Cour internationale de justice dans la procédure engagée par l'Iran. L'Iran qui cherche à obtenir la levée des sanctions américaines réimposées par le président Donald Trump. Ce mardi marque le deuxième jour des audiences devant la Cour basée à La Haye. En mai dernier, le président américain a retiré son pays de l'accord sur le nucléaire signé par Téhéran et les grandes puissances en 2015. L'Iran s'y engage à ne jamais chercher à se doter de l'arme atomique. Et les États-Unis et le Mexique ont conclu un accord commercial hier après de longues semaines de négociations, espérant maintenant que le Canada pourra se joindre à eux pour donner naissance à l'accord de libre-échange nord-américain ALENA version 2.0. Claire Morin-Gibois.
C'est un grand jour pour le commerce, a déclaré hier le président Trump depuis le bureau ovale. L'un des points les plus importants de cet accord concerne le secteur automobile. Désormais, 75% du contenu des automobiles doit être issu des États-Unis ou du Mexique et 40% à 45% du contenu d'une automobile doit être produit par des travailleurs gagnant au moins 16 dollars de l'heure. Le Canada, signataire de l'accord de libre-échange nord-américain ou ALENA, n'a pas participé à cette phase des négociations, préférant laisser le Mexique et les États-Unis régler d'abord leurs nombreux différends. D'ailleurs, la ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, est attendue aujourd'hui à Washington pour poursuivre les négociations. Dès son arrivée à la Maison-Blanche, Donald Trump avait dénoncé l'ALENA qu'il jugeait désastreux pour les États-Unis. Le président a affirmé qu'il ne souhaitait pas garder le nom de l'ALENA, préférant évoquer un accord commercial États-Unis-Mexique.
Et la première ministre britannique Theresa May débute sa première tournée africaine ce mardi en Afrique du Sud. Elle se rendra également au Nigeria et au Kenya pour des discussions consacrées à l'économie et à la sécurité. Elle évoquera avec les partenaires le Brexit et ses possibles répercussions sur les relations commerciales que son pays entretient avec les nations africaines. Il s'agit de la première visite d'un ministre britannique en Afrique subsaharienne depuis 2013 et de de la première au Kenya depuis Margaret Thatcher en 1988. Excellente suite de programme.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.